Les quatre cavaliers de l'Apocalypse que l'on trouve en Apocalypse 6 ont marqué l'imagination des gens depuis fort longtemps. C'est vrai qu'ils sont assez spectaculaires, ces quatre cavaliers de couleurs différentes, et ils sont tous les quatre assez effrayants. Au Moyen Âge, on disait qu'ils représentaient les quatre fléaux principaux, qu'étaient la guerre, les épidémies, la mort et l'asservissement. En fait, je pense que pour bien comprendre ce qu'il signifie, il faut replacer l'histoire dans son contexte. Et comme je l'ai déjà dit, je ne crois pas que l'Apocalypse soit un livre qui essaye de nous faire peur ou de nous dire des catastrophes ou même d'imager les catastrophes qui nous arrivent, mais c'est d'expliquer comment nous pouvons apprendre à être en meilleure relation avec Dieu et avec les autres. Et donc, remettons les choses dans son contexte. D'où viennent-ils, ces quatre cavaliers ? Ils apparaissent chacun quand Jean ouvre l'un des sceaux qui fermait le livre. Alors, il faut reprendre encore un petit peu avant, et on nous explique avant qu'il y a un livre extraordinaire qui est dans la main de l'ange. Ce livre, évidemment, c'est la Bible, et que ce livre, il est fermé de 7 sceaux. Alors, les sceaux, c'est comme pour aujourd'hui des serrures, c'est-à-dire qu'il est fermé de 7 serrures. Et si on veut arriver à ouvrir le livre pour comprendre ce qu'il y a dedans, il faut ouvrir une après une les 7 serrures qui ferment ce livre. Eh bien ça me plaît assez comme idée. Parce que la Bible, elle nous est donnée, et finalement elle nous est donnée ouverte, mais vous savez très bien que la Bible c'est extraordinairement compliqué à lire. Et que finalement ce livre, pour ouvert qu'il paraisse, eh bien scellé souvent à notre compréhension. Et pour arriver à comprendre ce que ce texte veut nous dire, il faut ouvrir un certain nombre de serrures, il faut un certain nombre de clés pour pouvoir comprendre ce livre. Et je pense qu'effectivement, pourquoi pas, il y a 7 clés. Avec les 4 cavaliers, nous avons les 4 premières clés. Les 4 premières clés qui sont les plus essentielles et qu'il faut ouvrir les unes après les autres. Et si on n'a pas ces 4 clés, ce n'est même pas la peine de lire la Bible, on ne comprendra rien. Et donc, ces 4 clés, la Bible nous dit que ce sont des sceaux. Pour ouvrir un sceau, il faut le briser. Peut-être que c'est ça aussi. Il faut un peu bagarrer, il faut un peu lutter avec un certain nombre de choses pour arriver à rentrer dans la profondeur du texte biblique. Et comme on brise ces sceaux, il faut en quelque sorte briser chacun de ces 4 cavaliers auxquels il faut se frotter, qu'il faut affronter. Alors quels sont ces 4 cavaliers, ces quatre choses qu'il faut absolument connaître pour pouvoir comprendre la Bible, ces 4 expériences qu'il faut avoir dépassées? Eh bien, nous allons les voir. La première, nous dit-on, c'est un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ce cheval blanc, il est extraordinaire. J'aimerais bien être comme lui, finalement, avoir une couronne, être vêtu de blanc, et pouvoir aller dans le monde pour vaincre, pour tout vaincre. Qui n'a pas rêvé d'avoir les super-pouvoirs des héros, d'être capable d'être vainqueur de tout, de tout réussir et de ne jamais rien rater. Simplement, ce cheval blanc, ça n'est pas moi. Et si le cavalier blanc a le pouvoir de tout vaincre, et si lui, il gagne tout le temps, c'est que moi, pauvre de moi, je suis souvent vaincu. Et peut-être est-ce là la première expérience fondamentale qu'il faut assumer, c'est celle de l'échec. C'est que effectivement, nous ne sommes pas des Superman ou des Superwoman et nous ne pouvons pas toujours tout réussir. Ça, c'est fondamental de le savoir. Les psychanalystes disent que le petit bébé, il est dans un sentiment de toute puissance et qu'il découvre, je ne sais pas, vers 3 ans, paraît-il, à peu près, qu'il n'est pas tout puissant et que par conséquent, il ne peut pas tout obtenir. Eh bien, c'est justement en découvrant qu'on n'est pas tout puissant qu'on devient adulte. Le problème, c'est de savoir si la foi nous aide à être adulte ou si elle nous en empêche. Là encore, les psychanalystes sont très virulents à l'égard d'une certaine foi chrétienne en disant Le Dieu que vous prêchez, il rend simplement les gens infantiles. Parce que, au lieu de leur faire assumer le fait qu'ils ne sont pas tout-puissants, vous leur dites « Vous n'êtes pas tout-puissant, mais ça n'est pas grave, puisque vous avez dans le ciel un Père qui, lui, est tout-puissant, et vous pouvez lui demander ce que vous voulez, il le fera. » Et donc, finalement, ce serait une manière de redonner par la bande cette espèce de toute-puissance que, nécessairement, on doit abandonner un jour. Donc l'expérience de l'échec, je vous disais, c'est certainement l'expérience la plus universelle, et il faut l'avoir gérée intelligemment pour pouvoir continuer à avancer dans sa propre vie. Les deux mauvaises manières de la gérer, l'une c'est de la nier, comme je vous le disais, c'est-à-dire de continuer à croire qu'on pourrait être parfait, de continuer à croire que le but de notre vie, ce serait de n'avoir jamais d'échec, de tout réussir, de tout faire, d'être toujours le meilleur. Et ça, c'est très angoissant. Ça peut conduire à la dépression, au suicide, ou en tout cas à la violence, contre soi ou contre les autres. Et l'autre mauvaise manière de gérer ce sentiment de non-toute-puissance, eh bien, c'est le découragement. Et de se dire, de toute façon... Puisque je n'y arrive pas parfaitement, ce n'est même pas la peine que je me donne du mal, je n'arriverai jamais à rien, tout ça ne sert à rien, je suis mauvais, je suis nul, je suis incapable, et donc de rester dans une sorte d'immobilisme. Là-dedans, la Bible nous donne une certaine réponse. Et elle nous dit, mais écoutez, vous n'êtes pas tout puissant, c'est vrai, vous n'êtes pas parfait, c'est vrai aussi, il faut d'abord que vous le sachiez, et puis il faut que vous sachiez aussi que ça ne vous empêche pas d'être aimé et ça ne vous empêche pas d'avoir le droit d'exister. Et autrement dit, le message fondamental de l'Évangile et surtout du début de l'Évangile, c'est-à-dire le message de Jean-Baptiste, c'est de nous dire « Vous êtes pécheurs et pardonnés ». Et le péché, ce n'est pas la faute morale. Le péché, c'est peut-être justement l'imperfection. Oui, je suis imparfait fondamentalement, je dois l'admettre, parce que Dieu seul est parfait, mais néanmoins, je suis pardonné. C'est-à-dire que ça ne m'empêche pas d'avoir le droit de vivre, ça ne m'empêche pas d'avoir le droit d'exister, ça ne m'empêche pas d'être aimé et d'être accepté. Et donc voilà, peut-être que c'est ce message fondamental de Jean-Baptiste qui nous rappelle que nous sommes pécheurs et pardonnés doit nous inviter à être capable d'avoir une juste compréhension de notre vie qui consiste à la fois à assumer sa propre faiblesse sans s'en décourager et à se dire « bon, de toute façon, je ne suis pas parfait, donc je vais faire ce que je peux et puis de toute façon, je ne suis pas jugé sur le résultat et donc je suis simplement sauvé par amour et par grâce ». Cela peut nous inviter aussi à ne pas faire de notre vie un examen qu'il faudrait réussir. Ça, c'est quelque chose également qui a souvent été enseigné, même dans les catéchismes. Et on me l'a enseigné à moi quand j'étais petit, dans mon église. Et plus ça va, et plus je lutte contre cette idée. On m'a dit, tu sais, la vie, c'est comme un examen. Il faut réussir. Et il faut passer, avec réussite, l'épreuve de sa vie, comme on passe le baccalauréat. Eh bien, c'était effroyable comme vision des choses. La vie n'est pas un baccalauréat à passer. La vie n'est pas quelque chose à réussir. La vie, c'est simplement quelque chose d'imparfait que nous faisons comme nous pouvons. Mais la vie consiste avant tout à se savoir imparfait et à savoir que cette imperfection ne nous coupe pas de Dieu, ni des autres, ni de nous-mêmes, ni de notre, du fait que l'on ait le droit de vivre, ni du fait que l'on puisse être aimé. Et puis peut-être que cette imperfection fondamentale, quand on en a conscience, nous invite justement à chercher, la perfection ailleurs qu'en nous-mêmes. C'est-à-dire ça peut nous donner une sorte d'humilité qui nous invite à être en quête d'une vérité plus essentielle que nous-mêmes. Si je ne suis pas la statue de la liberté, si je ne suis pas la perfection éternelle de toute chose, eh bien je vais chercher la perfection et la réussite ailleurs. Et je pense que ça peut être un moyen, justement, de se tourner vers l'éternel, vers Dieu, vers ce domaine spirituel en qui nous avons la réussite et en qui nous avons le pouvoir, en quelque sorte. Le second cheval, nous dit-on, est un cheval rouge feu. Et celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Ah, ce deuxième cavalier rouge-feu qui enlève la paix est peut-être la deuxième épreuve qui nous empêche d'avoir trop confiance en nous-mêmes. Et cette deuxième épreuve, c'est peut-être aussi notre incapacité à vivre en paix, vraiment, dans ce monde, soit d'un point de vue politique, puisqu'il y a toujours dans ce monde des guerres et des bruits de guerre, soit d'un point de vue personnel, c'est-à-dire c'est notre incapacité à vivre parfaitement en paix avec tous ceux qui sont autour de nous, et même parfois avec ceux que nous aimons le plus. Et donc voilà, malgré notre bonne volonté, il y a autour de nous, en nous, des disputes, des incompréhensions, des animosités, des jalousies. Eh bien, cela doit aussi nous inviter à prendre conscience, certainement, de notre imperfection. Et cela doit nous montrer que, justement, on ne peut pas trouver, on ne pourra jamais trouver dans le monde visible et terrestre la perfection de ce après quoi nous courons. Alors, dire ça, ce n'est pas non plus pour vous décourager ou pour vous démobiliser. C'est plutôt, au contraire, je crois, pour déculpabiliser. Parce que les idéaux trop élevés sont parfois décourageants. Et certainement, nous avons peut-être tous un peu l'idée que notre famille soit quelque chose d'idéal, dans laquelle la paix règne, dans laquelle l'harmonie soit de rigueur, avec un amour parfait, immuable, éternel, avec sa femme ou son mari, avec des enfants toujours sages, toujours travailleurs, toujours de bonne volonté, toujours gentils, toujours merveilleux. Et en fait, eh bien, ça n'est pas comme ça. Et dans notre vie, nous voyons que les enfants ne sont pas toujours sages et que l'amour n'est pas toujours comme nous voudrions qu'il soit et que l'harmonie familiale n'est pas ce dont nous avons toujours rêvé. Eh bien, peut-être est-il bon, justement, d'abord de le savoir, de savoir que c'est comme ça et de l'accepter et de l'assumer. Ça ne veut pas dire que nous ne ferons pas au mieux pour essayer que les choses aillent comme elles peuvent aller, mais cela veut dire que, de toute façon, notre famille, notre travail ou même notre pays n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est ailleurs. Et donc, si vous voulez la paix, eh bien, il faut la trouver d'une autre façon. Parce que le royaume de Dieu n'est pas ici sur terre, il est ailleurs. D'un point de vue politique, c'est important, parce que un bon nombre de gens aussi pensent que l'idéal, ce serait que tous les pays vivent en paix. Alors on va mettre l'ONU, et l'ONU ou les casques bleus deviennent un peu l'image du Messie qui viennent rétablir la paix, et c'est ceux qu'on attend et qui viennent enfin tout régler sur terre d'un point de vue politique. Mais la politique n'est pas plus réussie que nos propres affaires à nous, et sur terre il y aura toujours des guerres et des bruits de guerre, et par conséquent le Messie n'est pas terrestre, il est d'un autre ordre. Et donc effectivement, si nous voulons la paix, eh bien, nous devons être invités à la trouver ailleurs qu'ici-bas. Et la paix, ce n'est pas la paix politique, la paix, c'est la paix intérieure. Nous pouvons ainsi savoir que dans cette incapacité que nous avons de vivre concrètement le royaume de Dieu sur terre, nous devons tourner nos yeux vers un royaume céleste et nous devons savoir que la vraie paix qui nous est donnée, c'est celle qui vient de Dieu et que là seule, nous avons une paix éternelle et immuable. Et après, bien, nous essayons, comme nous pouvons, de faire descendre cette paix sur la terre, mais c'est un petit peu comme nous pouvons, en quelque sorte. Le troisième cavalier, c'est un cheval noir. Celui qui le montait, nous dit-on, tenait une balance à la main, et j'entendis comme une voix au milieu des quatre êtres vivants qui disait « Une mesure de blé pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier, quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. » Ah, ce troisième cavalier, il a une balance à la main. Alors là, il y a un risque d'erreur d'interprétation dans notre monde moderne, parce que pour nous, la balance à la main, on imagine que c'est la justice. Mais en fait, ça, c'est une image moderne. Ce qu'il faut voir dans ce cavalier noir, c'est qu'il a une balance parce qu'il compte ses sous. Et il dit, tu pourras acheter ceci pour tant de deniers, cela pour tant de deniers, et l'huile et le vin, tu ne l'achètes pas. Alors ça, on peut l'entendre finalement de plusieurs manières. La première façon, c'est de continuer dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de ces expériences un peu frustrantes humaines qui nous rappellent que nous sommes imparfaits et qui nous rappellent que nous ne sommes pas Dieu et que nous avons besoin de Dieu. Et ça, ce serait peut-être l'expérience du désir de possession. C'est qu'en effet, il compte ses sous et il voudrait acheter plein de choses, et nous aussi, nous voudrions acheter plein de choses. On a plein d'idées de ce qu'on aimerait acheter. Alors ce n'est peut-être pas du blé et de l'orge, mais ça peut être du saumon fumé, du foie gras, ou des voitures de sport, des châteaux, tout ce que vous voulez, des beaux vêtements, des trésors, des bijoux, je ne sais quoi. Et donc nous avons tous envie d'avoir plein de choses, mais le problème que nous impose ce chevalier noir, c'est qu'on ne peut pas tout acheter. D'abord parce que si riche que l'on soit, il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas acheter, et donc on bute toujours un moment ou l'autre sur une sorte de frustration de dire, eh bien voilà, vous êtes peut-être très riche, mais ça n'est pas dans vos moyens. Et ça, c'est très embêtant. En un sens, c'est peut-être très, je dirais très sain, parce qu'effectivement, ça nous rappelle que nous ne pouvons pas tout acheter et que donc nous ne sommes pas Dieu. Là encore, cela montre que si on reste dans le matérialisme, il y a une sorte de course sans fin qui conduit nécessairement à une insatisfaction profonde et que par conséquent, le seul moyen, c'est de chercher ailleurs l'absolu parce que vous ne pourrez jamais trouver une satisfaction totale dans la possession matérielle puisqu'il y a toujours quelque chose que l'on n'a pas. Et que le seul moyen de trouver une espèce de plénitude, le seul qui puisse dire « j'ai tout ce dont j'ai besoin » ou « je n'ai besoin de rien d'autre », c'est celui qui a trouvé une richesse spirituelle qui est d'un autre ordre et qui lui permet de trouver la plénitude en lui-même. C'est d'ailleurs ce que dit Jésus dans l'histoire du pain de vie, dans l'évangile de Jean, où il dit « celui qui se mange de ce pain n'aura plus jamais faim ». Où il dit à la Samaritaine, « Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » C'est-à-dire qu'il faut comprendre ça. C'est que nous pensons tous que pour être heureux, il faudrait posséder plus. Nous pensons que pour être heureux, il faudrait avoir encore plus de choses, pouvoir accéder à plus de choses. Et il faut un jour ou l'autre comprendre que cette quête est une quête sans signification, sans fin, et c'est une quête impossible. Et donc de sortir de cette logique, et pouvoir dire, eh bien finalement, je me contente de ce que j'ai, et ma quête est dans un autre ordre. Et l'autre chose qu'il faut comprendre, et que nous explique le cheval noir, c'est qu'il dit, voilà, il faudra que tu payes pour ceci et pour cela, bon, c'est ce que nous faisons sans cesse, mais l'huile et le vin, ça, tu n'y touches pas. L'huile et le vin, dans la Bible, c'est les symboles de la joie et de la bénédiction. La bénédiction, c'est l'huile, la bénédiction de Dieu est comme une huile, et le vin, c'est la joie céleste, autrement dit. Et donc, le cavalier nous dit bien cela, c'est que tu peux acheter beaucoup de choses sur terre. D'abord, tu ne pourras jamais tout acheter, mais par contre, il y a une chose que tu ne pourras jamais acheter avec ton argent, c'est le bonheur, et c'est la bénédiction. Et là, c'est quelque chose qu'il faut avoir compris. Si on n'a pas compris ça, eh bien, c'est même pas la peine de lire la Bible, je dirais, c'est la base fondamentale. De comprendre que le matérialisme ne peut pas tout donner et qu'il ne peut pas donner l'essentiel. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter, c'est l'amour. Et que le bonheur lui-même ne pourra jamais se faire par l'accumulation de biens, mais qu'il est d'un autre ordre. On trouve aussi ça d'ailleurs dans l'Évangile, quand Jésus dit « ne vous amassez pas des trésors sur terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, parce que ces trésors-là sont éternels ». Quant au quatrième cavalier, le cavalier verdâtre et qui s'appelle la mort, alors c'est peut-être celui par lequel il aurait fallu commencer. Parce que peut-être est-il celui qui nous rappelle aussi le plus que nous ne sommes pas Dieu. Et je me souviens qu'une fois je faisais une leçon d'école biblique et j'expliquais aux enfants que le péché originel, ça consistait à se prendre pour Dieu. Et que ça, c'est très grave. Bon, on l'a déjà vu un petit peu de différentes manières avec les autres cavaliers, mais quand on se prend pour Dieu, eh bien, on se condamne soi-même à être très malheureux et on se condamne à faire beaucoup de mal autour de soi. Parce que se prendre pour Dieu, c'est se mettre au centre de tout, C'est se dire qu'on devrait soi-même être parfait, c'est intenable, et c'est culpabilisant, et c'est démotivant, ou ça n'engendre que des mauvaises choses. Et donc je disais à ces enfants, qu'est-ce qui nous rappelle que nous ne sommes pas Dieu ? C'est vrai après tout, qu'est-ce qui prouve que nous ne sommes pas Dieu ? Et il y en a un qui a dit cette chose très juste, il a dit, la preuve, c'est que nous sommes mortels. Eh bien, ça, c'est une chose très importante, parce que c'est très difficile de se concevoir comme mortel. Les adolescents n'y arrivent absolument pas, et les adultes pas plus, je crois. C'est ce que disent en tout cas les psychanalystes. Ils disent, la seule chose que l'homme ne puisse absolument pas concevoir, c'est sa propre mort. Je ne sais pas s'ils ont raison, mais en tout cas, je pense que de se savoir mortel replace les choses dans une certaine, dans une considération juste, où justement ça veut dire, écoutez, notre vie, c'est pas le chef-d'œuvre du monde, hein. Notre vie, c'est un passage, et notre vie, c'est entre un point de départ et un point d'arrivée, c'est quelques années, et nous sommes tous des choses extrêmement provisoires, alors que nous voudrions tous être éternels, et donc nous organiser pour que, finalement, tout dure et ne change jamais. Il est bon de savoir que nous sommes très fondamentalement provisoires, et que finalement, nous ne sommes pas quelque chose d'éternel, ni de si essentiel que ça dans le monde. Et que par conséquent, ce que nous avons de mieux à faire, c'est d'accrocher notre petite vie provisoire à quelque chose d'éternel, qui lui est une vraie valeur et qui lui est une valeur d'éternité. Je me souviens aussi d'une fois où j'étais dans un monastère et j'écoutais la prière d'intercession d'une oreille distraite, comme on le fait souvent, et une phrase a retenu mon attention quand le moine a dit « Nous te prions pour tous ceux qui vont mourir aujourd'hui ». Et tout à coup, ça m'a surpris parce que je me suis dit, tiens, c'est vrai, il y a des gens qui vont mourir aujourd'hui, peut-être moi, après tout, peut-être vous. Et tout à coup, ça a fait rentrer, je dirais, dans l'aujourd'hui, la possibilité même de la mort. Et je pense que c'est une bonne chose de se savoir mortel. Ce n'est, une fois de plus, ni pour s'en désespérer, ni pour s'en décourager, ni pour tomber dans une sorte de rumination morbide, je dirais, de spectacle de sa propre mort, mais pour se remettre à sa juste place en disant, eh bien écoutez, voilà, nous sommes comme nous sommes une petite chose provisoire, et il ne faut pas non plus trop en demander, ni trop en vouloir. Mais par contre, il y a quelque chose d'essentiel, c'est que si je ne mets pas ma confiance en moi-même, je peux la mettre en autre chose, c'est-à-dire je peux aller plus loin pour découvrir cette réalité qui, elle, est éternelle. Et donc je vous disais que ces quatre chevaux que nous rencontrons sont, c'est vrai, tous les quatre un petit peu négatifs. Et là, le texte ne donne pas directement la réponse adaptée à donner à cela, à ces expériences difficiles qui sont l'expérience, je vous l'ai dit, de l'échec, qui sont l'expérience de l'incapacité à vivre en paix, qui sont l'expérience de ne pouvoir tout posséder, ou l'expérience du fait d'être mortel. Mais la réponse n'est pas donnée là. La réponse, elle est donnée ensuite dans l'Évangile, dans la Bible. Et peut-être que tout l'Évangile est justement une réponse à ces quatre questions fondamentales, qui sont les quatre questions que nous ne pouvons pas éviter dans notre propre existence, parce que sans arrêt, nous y sommes confrontés. Et la Bible nous dit simplement cette chose, d'abord, accepter de regarder en face ces quatre questions, parce que les masquer ou essayer de leur échapper ne serait pas une bonne chose. La politique de l'autruche n'a jamais sauvé personne. Et donc accepter d'affronter ces quatre cavaliers. Ils sont là, donc oui, c'est vrai, je reconnais, il y a dans ma vie de l'échec, de l'incapacité à vivre en paix, il y a dans ma vie un désir matériel inassouvi, et puis d'autre part, je suis mortel et ça ne me fait pas plaisir. Et puis, il y a une réponse dans la Bible, une réponse pour chacune de ces choses. Et cette réponse, ce sera à vous de la trouver. Quand vous aurez ouvert ce livre et brisé ces sceaux, vous pourrez briser ces expériences qui, au lieu d'être des choses négatives, paralysantes, culpabilisantes, eh bien pourront au contraire devenir des tremplins qui vous poussent vers la vie. À l'expérience de l'échec, on nous enseignera le pardon et l'acceptation gratuite que nous donne Dieu. au désir de posséder, la Bible nous dira que nous pouvons posséder des trésors invisibles qui sont infinis. Aux guerres et aux troubles, eh bien, la Bible nous dira qu'en Dieu, nous pouvons trouver, quelle que soit la situation où nous sommes, la paix intérieure. Et devant cette menace de la mort, la Bible nous enseignera que nous ne sommes pas condamnés à la mort, mais que nous sommes promis à la vie. Et donc c'est ça la bonne nouvelle que l'on trouve dans tout l'Évangile, c'est que dans tous ces chevaliers, eh bien, nous avons tous la possibilité de les vaincre. Et c'est ce que dit Paul aussi en Romains 8, dans ce texte si beau, quand il dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et il dira, je suis persuadé que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que ni la vie, ni la mort, ni les puissances, ni rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et donc en Dieu, nous sommes tous plus que vainqueurs. C'est-à-dire qu'il y a une réponse positive, dynamique à toutes ces questions. Alors, j'ai maintenant une deuxième prédication à faire, mais comme je n'ai pas le droit de prêcher plus d'une demi-heure, je la remets à un autre dimanche. C'est que, en fait, en regardant ce texte, tout à coup, je me suis dit, mais il est bien négatif. Et après tout, on pourrait lire chacun de ces cavaliers comme une bonne nouvelle. Et c'est vrai, après tout. Le premier cavalier, il est blanc et il a une couronne. Eh bien, ça, c'est le Christ lui-même. Et le deuxième cavalier, il a la couleur du feu, mais le feu, c'est le feu de la parole. Et tous ces cavaliers peuvent être des bonnes nouvelles. Et je vous prêcherai ça là-dessus au mois de mai, je pense, où je vous reprendrai ces quatre cavaliers pour vous montrer que ce ne sont pas forcément des personnages de fléau, mais ça peut être, chacun peut être une excellente nouvelle. Mais tout dans la vie est comme ça. Et toute chose peut être pour le meilleur ou pour le pire, suivant l'état d'esprit avec lequel on le regarde. Et tous ces cavaliers qui nous semblaient si négatifs peuvent être des tremplins extraordinaires pour notre existence. Parce que quand on passe par là, eh bien on découvre justement la puissance de la parole, on découvre la merveille de la paix de Dieu, on découvre la chose extraordinaire du pardon qui nous est donné en Dieu. Et on découvre également la paix que nous donne le Seigneur, et on découvre aussi l'éternité qui nous est offerte par grâce. Et donc merci à tous ces bons cavaliers qui nous apportent, eh bien, la bonne nouvelle. Amen.